Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous suivez bien la radio Inzamba à Gateka Kawe, c'est l'heure du journal de ce lundi 5 décembre 2022. Tout d'abord les titres. Évariste Ndayishimiye tire à boulet rouge sur la population de Kabarore en province Kayanza qui l'accuse de spolier les minéraux du pays. Mais le président a tort, car ce n'est pas aux citoyens de répondre sur cette question, estime l'expert économiste Fosindi Kumana que vous suivrez dans ce journal. Les réfugiés burundais en Tanzanie, plus malheureux que jamais, ils fustigent la décision de leur retirer le statut de réfugié par le gouvernement tanzanien pour les forcer à rentrer. Et puis le continent africain ne compte plus que sur le Maroc en Coupe du Monde de football après l'élimination hier du Sénégal en 8e de finale. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
La persécution sur les membres du conseil communal à Nyanzalak en province Makamba s'intensifie. Selon ses conseillers communaux, ils subissent des fouilles et perquisitions sans arrêt qui sont effectuées à leur domicile depuis la décision de destitution du bureau du conseiller communal vendredi dernier. Le conseil communal avait alors pris la décision de limoger l'administrateur de cette commune. Le président de ce conseil communal et son vice-président leur reprochant de manquements graves. Ils demandent au président de la République d'envoyer une équipe pour enquêter et résoudre ce problème. Pierre Garungu.
Selon les membres du conseil communal Nyanzalak, issus du parti CNDD-FDD, des fouilles et perquisitions sont effectuées par la police à leur domicile depuis le matin de ce samedi 3 décembre. Ils ne dorment plus dans leur maison depuis la décision de destituer le bureau de ce conseil communal. Des conseillers de plusieurs collines ont été ciblés par des fouilles policières. Jean-Claude Ndouimana, membre du conseil communal et ancien administrateur de Nyanzalak de 2015 à 2020, a été arrêté par la police à son domicile le matin de ce dimanche 4 décembre. Il a été interrogé par un officier de la police judiciaire pendant quelques heures avant d'être libéré. Cet ancien administrateur a été questionné sur la décision qu'ils ont prise. Ce dernier aurait expliqué que la décision a été prise en âme et conscience suite au manquement reproché, avec des preuves à l'appui, au bureau du conseil communal Nyanzalak. Les autres conseillers communaux du CNDD-FDD, victimes de fouilles policières, sont ceux des collines Binikanyi, Uheka, Kazilabageni, Mukimba et Kidelege. Les policiers sont arrivés à leur domicile vers 1h du matin de ce dimanche. Ces derniers n'ont pas été arrêtés car ils avaient été informés à temps et ils ont pris fuite. Une réunion d'urgence du bureau communal du CNDD-FDD en commune Nyanzalak est prévue ce lundi 5 décembre. Elle sera dirigée par le secrétaire communal adjoint du CNDD-FDD. Elle viserait à destituer Taden Ndayishimiye, secrétaire communal du CNDD-FDD, qui n'est pas en bon terme avec Françoise Ngozirazana et Marie-Goretira Honda, respectivement gouverneur de Makamba et administratrice de Nyanzalak. La plupart des membres du bureau auraient décidé de boycotter cette réunion. Signalons que le secrétaire communal du CNDD-FDD, Taden Ndayishimiye, et Jonathan Mawenayo sont détenus au cachot du commissariat communal de police à Makamba depuis samedi dernier. Ces conseillers communaux issus du CNDD-FDD demandent au chef de l'État de créer une commission indépendante pour enquêter sur les manquements reprochés à ce bureau du conseil communal de Nyanzalak. Suite à toutes ces allégations, la rédaction de la radio Inzamba à Gateka Kawe n'a pas encore joint par téléphone le porte-parole du ministère de l'Intérieur pour plus d'éclaircissements sur cette affaire.
Pierre Garungu, merci. Du sud, on passe au nord du pays. La population de la commune Kabarore dans la province de Kayanza est accusée par le président Évariste Ndayishimiye de fraude et d'exploitation anarchique de minéraux dans cette commune. Au cours d'une descente qu'il a effectuée à Kayanza samedi dernier, le chef de l'État dit ne pas comprendre comment la population continue de se plaindre qu'elle est pauvre, alors qu'elle ne protège pas la richesse du pays. Suivez-le.
Je vois des creux, mais je ne vois pas de l'argent. Où est-ce que vous l'avez mis? Donne-moi des explications concernant ces creux dans lesquels vous avez extrait des minéraux. Un jour, je vais vous convoquer, vous tous, pour m'expliquer où est parti cet argent. Tu exploites des minéraux et tu les achemines chez des étrangers pour qu'ils puissent vivre dans l'abondance. Désormais, celui qui va dilapider les richesses du pays sera interrogé sur ce sujet. Non, explique-moi, si on prenait l'argent issu de la vente de ces minéraux de Kamanoré, pourrions-nous continuer à dire que le Burundi est pauvre? Pourrions-nous dire que nous manquons des médicaments? Pourrions-nous dire que nous n'avons pas des routes? L'argent issu de la vente de ces minéraux de Kabarore pouvait bien construire la route venant de Bujumbura jusqu'à Kabarore. C'est notre ignorance. Dieu a voulu vous prouver votre ignorance pour ne plus tomber dedans.
Ce n'est pas à la population de rendre compte des cas de fraude et d'exploitation anarchique des minéraux dans la commune de Kabarore. C'est la réaction de Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG PASSEM. Selon lui, il y a des institutions étatiques qui sont payées pour cela. Faustin Dikoumana parle de l'administration, de la police et du service qui s'occupe de l'octroi des permis d'exploitation des minéraux. Suivez Faustin Dikoumana.
Et j'imagine qu'à ce niveau d'abord, il faut établir les responsabilités. Parce que s'il y a fraude, il y a des institutions qui doivent suivre, qui doivent contrôler, faire une inspection, investigation quotidienne, chargée de ces investigations au niveau quotidien. Donc ils doivent le faire, qui sont payés pour ça. S'il parvient à y avoir une fraude massive, c'est qu'il y a une faille aussi dans ces institutions. Quant à l'exploitation minière, bon, un opérateur économique a été dénoncé publiquement, mais j'imagine, ici nous avons une loi régissant l'exploitation artisanale des minéraux. Si l'opérateur économique en question a exploité, il a fait de par la loi. Je crois qu'il y a une loi, il y a les services qui doivent le contrôler. Il y a l'OBER, il y a la Banque centrale. Est-ce qu'il y a une enquête, un rapport qui établit la quantité exportée par lui et les montants encaissés, les devises encaissées à la Banque centrale? S'il y a une fuite ou fraude, est-ce que ces institutions ont déjà établi un rapport pour établir les responsabilités de tel ou tel autre opérateur économique? Il y a les sentiments qui peuvent s'être exprimés, de bons sentiments, le président a avoir un engagement, mais quand même, il faut qu'il y ait des institutions techniques qui rapportent, qui prouvent, qui donnent des preuves, qui orientent même la justice pour que celle-ci puisse se saisir de certains dossiers avec facilité. Sinon, ça peut rester au niveau de la simple sensibilisation, et alors que les pratiques ne changent pas parce que techniquement, il faut qu'il y ait la capacité institutionnelle d'y faire face.
C'est ce dimanche qu'a comparu devant le tribunal de grande instance de Ngozi le nommé Tosif d'origine indienne. Quoiqu'il ait reconnu avoir fait subir des coups et blessures à la jeune fille de 13 ans, sans y avoir réfléchi, le tribunal a signifié que l'acte criminel qu'il a commis était plutôt prémédité. Il a alors été condamné à une peine carcérale de 4 ans et au versement de 200 000 francs d'amende. Il lui a été précisé qu'au cas où cette amende ne sera pas payée, il va écoper d'une peine subsidiaire d'une année. Par ailleurs, il devra verser 10 millions de francs aux parents en guise de dédommagement moral. En cas de non-paiement de cet argent, il subira une peine subsidiaire de 50 ans. Après expiration de la peine, le tribunal a indiqué qu'il ne sera pas autorisé à cet homme de résider dans le pays pour une période de 5 ans. Rappelons que la victime a été frappée par une barre métallique dans l'après-midi de jeudi de la semaine dernière pour avoir salué le jeune Indien en disant en kirundi « Yambo Muzungu ». Grogne chez les militaires burundais qui sont en train d'être relevés du contingent Atimis en Somalie. Ils disent n'avoir rien trouvé sur leurs comptes respectifs. La situation serait d'autant plus grave qu'ils n'ont même pas de moyens pour aller rendre visite à leur famille. Plus de détails avec Bonfils Niyongere.
Les militaires qui grognent sont ceux du 62e, 63e et 64e bataillon Atimis. Ils sont en train d'être relevés depuis la deuxième moitié du mois de novembre dernier. Ils réclament 11 mois d'arriérés des indemnités Atimis. Ils indiquent qu'ils n'ont même pas de moyens pour aller rendre visite à leurs familles respectives.
Nous sommes rentrés bredouilles. Même aller en congé, l'on doit se débrouiller. Sinon, nos comptes sont vides après une année de prestations. Quand tu ne trouves pas de ticket, on te dit de rester au camp et que tu ne manqueras pas à manger.
Depuis leur déploiement en Somalie au mois de novembre de l'année dernière 2021, ils n'ont reçu qu'un seul mois d'indemnité. Les fonds ATMIS ont été pour la plupart retenus par la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires CECADEM en guise de remboursement d'un découvert ATMIS qu'ils avaient contracté avant le déploiement. Ils s'inquiètent également que la coopérative les sanctionne injustement en relevant les indemnités de retard de paiement alors qu'ils ne sont pas à l'origine de ce retard. Les autres militaires qui réclament leurs indemnités ATMIS sont ceux du 60e et 61e bataillon ATMIS qui ont été relevés au mois de mai 2022. Ils réclament plus de 4 mois d'indemnité. Quant à ceux du 65e et 66e bataillon ATMIS, ils réclament plus de 5 mois d'arriérés. Ces derniers ont été déployés au mois de mai 2022. Les militaires burundais ne comprennent pas la raison de ces retards de paiement de leurs indemnités alors que les militaires en provenance des autres pays contributeurs de troupes n'ont pas ce problème. Ils demandent aux autorités politiques et militaires de résoudre ce problème qui se répète depuis plus de 5 ans. La rédaction de la radio Nzambagate Kakawe n'a pas encore eu la version du colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée, pour de plus amples informations sur ce dossier de retard des indemnités ATMIS.
Inzamba.
Retour au sud du pays pour la suite de cette édition avec la route nationale numéro 3 qui est impraticable depuis la matinée de ce lundi. C'est suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue sur plusieurs communes de cette province la nuit dernière. La RN3 a été coupée au niveau de la localité de Kizuka, une situation qui paralyse la circulation des biens des personnes. Cette forte pluie a détruit également une cinquantaine de maisons, selon des sources sur place. Suivez ce reportage de Jean-Marie Ndavashinze.
Une cinquantaine de maisons avaient été démolies jusqu'à 14h de ce lundi, à l'origine des eaux de pluie qui luisèrent dans les hautes montagnes. Ces eaux ont stagné sur le côté haut de la route nationale numéro 3, c'est dans la localité de Nyamivu, zone Kizuka de la commune et province Lumonge. La majorité des gens dont leurs maisons ont été détruites par les eaux de pluie s'étaient installés à Nyamivu après avoir fui la montée des eaux du lac Tanganyika. Selon nos sources à Lumonge, les mêmes eaux qui ont manqué des canaux de canalisation ont coupé la RN3. Les habitants de Kizuka accusent la société Sogea Satom de n'avoir pas prévu des canalisations pour les eaux qui doivent se jeter dans le lac Tanganyika. Cette coupure a occasionné un arrêt de mouvement des usagers de la RN3 selon nos sources. Des techniciens de la Sogea Satom sont intervenus, mais ça a pris un bon moment pour donner le passage aux automobiles. Ce dimanche, la RN3 était aussi coupée dans la localité de Kazingati. Plusieurs limons avaient envahi la route. C'est sur la colline Nguva de la commune Muhuta, en province de Rumonge. La route est redevenue praticable vers 19h.
Jean-Marie Ndrashinze, les réfugiés burundais qui sont en exil en Tanzanie doivent rentrer dans leur pays de gré ou de force. L'annonce a été faite par le directeur général chargé des réfugiés au ministère de l'Intérieur. C'était la semaine dernière lors d'une visite effectuée au camp d'Onduta. À la même occasion, il a fait savoir que ces réfugiés constitueraient une bombe à retardement s'ils restaient sur le sol tanzanien. Les détails avec Janvier Avalugira.
Soudi Makibasi, directeur général chargé des questions des réfugiés, au sein du ministère de l'Intérieur en Tanzanie, n'a pas mâché ses mots. Il a bien précisé que les réfugiés burundais seraient une bombe à retardement s'ils restaient en Tanzanie. Il menace de leur ôter le statut de réfugié, lequel statut leur permet de bénéficier de l'aide lors du rapatriement.
Continuer à accueillir les réfugiés est une bombe à retardement. C'est pourquoi on va prendre des mesures visant à leur ôter le statut de réfugié. Et puis, ils rentreront sans aucune aide. Leur ôter le statut de réfugié est une mesure que nous prenons en consultation avec les pays de la sous-région et la communauté internationale. Les Nations Unies sortent un communiqué précisant la date de la perte du statut de réfugié.
S'il refuse de rentrer volontairement, la Tanzanie fera usage de force, comme il en a été le cas en 2012, ce que ne souhaite pas cette autorité tanzanienne.
Beaucoup de choses échappent aux enfants qui évoluent dans les camps de réfugiés. Ils doivent étudier, ils doivent apprendre le civisme et d'autres choses nécessaires pour leur pays. C'est pourquoi nous les sensibilisons au rapatriement. S'ils refusent, nous pouvons leur ôter le statut de réfugiés. Nous l'avons fait en 2012. Toutes les activités qui s'exerçaient au camp ont été suspendues. Par après, tous les réfugiés ont été rapatriés. Nous ne souhaiterions pas en arriver à cela. Quand quelqu'un retourne dans son pays alors qu'il a perdu le statut de réfugié, il n'obtient aucune aide s'il arrive dans le pays qu'il avait quitté.
Vous saurez qu'au mois d'août de cette année, Filippo Grandi, le patron d'IHCL, quand il visitait les camps de réfugiés en Tanzanie, avait promis de tout faire pour que les réfugiés burundais ne soient pas rapatriés par force.
Les réfugiés burundais vivant en Tanzanie ont mal accueilli les propos de ce ministre. Selon eux, le Burundi n'est toujours pas paisible. Ils demandent au SAR de les délocaliser dans d'autres pays sécurisés et où on respecte les droits des réfugiés. On les écoute.
Le langage utilisé par le ministre de l'Intérieur tanzanien a été mal accueilli par les réfugiés, car ils ne sont pas heureux d'être ici. C'est parce que le reste de notre fruit n'ont pas encore eu une issue favorable. Au cas où nos problèmes seront résolus, nous allons rentrer. Par ailleurs, nous sommes maltraités dans la sous-région.
Quand ils disent de rentrer au pays, que au bon Dieu à la paix et la sécurité, est-ce qu'ils ne lisent pas les rapports des Nations Unies, les rapports des défenseurs des droits de l'homme, les investigations faites par les radios en exil? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe au Burundi? Ou bien, est-ce que cette paix qu'on chante, c'est une paix retrouvée seulement pour les réfugiés qui se trouvent sur le sol tanzanien? Nous demandons alors au RAFER, à la communauté internationale, à toute personne qui peut nous aider, de plaider pour nous. Parce que nous avons peur qu'ils vont mettre en application cette menace de supprimer le statut de réfugié.
Page sportive pour clore cette édition. Le Sénégal, un des représentants du continent africain à la Coupe du Monde qui se joue au Qatar, a été éliminé des compétitions. C'est après sa défaite hier devant l'Angleterre par 3-0. L'Afrique compte pour le moment sur le Maroc qui affronte demain l'Espagne. Et puis le championnat national de football, Primus League, on est aujourd'hui à sa 15e journée avec Bumamuru toujours leader du classement provisoire. Les détails avec Alexandre Niungeko.
Ce dimanche, Interstar a battu difficilement Tigre Noir par 1-0, mais Sage Ngozi a battu Burundi Sport Dynamique par 2-1 et Flambeau du Centre a tétanisé Bouja City par 3-0. Samedi, Magara Young Boys s'est imposé sur Rukinzo de la police nationale par 2-0. Match nul et vierge entre Top Junior et Kayanza United. Match nul dans Bipartout entre Aigle Noir et Atletico New Oil. Promenade de santé de Bumamuru face à Musongati 4-1. Et mercredi, Vitalo a battu Olympic Star par 3-0. Au classement provisoire à l'issue de la 15e journée, Bumamuru de Chibitoke vient toujours en première position avec 32 points, suivi de Vitalo avec 29 points. Flambeau du Centre est troisième avec 26 points et c'est au moment où Burundi Sport Dynamique est la lanterne rouge avec 9 points seulement. Le Sénégal, ambassadeur du continent africain à la Coupe du Monde de football qui se déroule à Dakar, a été éliminé ce dimanche après sa défaite face à l'Angleterre par 3-0. Seul le Maroc est encore en lice. Les Lions de l'Atlas connaîtront leur sort demain à l'issue du match qui les opposera à l'Espagne, la France tenant du titre. L'Angleterre, les Pays-Bas et l'Argentine sont les quatre déjà qualifiés pour les quarts de finale.
Merci Alexandre Niungeko et c'est par ici que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inza Magateka Kawe pour la production de ce journal. Un grand merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Josephine Johnson, on dit maintenant, j'étais à la présentation. Au revoir.